Good Morning Business, le grand débrief.
Il est 8h43, on a déjà commencé à débattre entre nous parce qu'il y a beaucoup d'actualités. Et nous sommes avec Carole Juge-Lewelyn, présidente et fondatrice de June, bonjour. Raphaël Bloch, cofondateur et rédacteur en chef de The Big Well. Et Thibault Langsad, PDG du groupe Lumines, bonjour.
Bonjour.
À tous les trois. On va commencer par Elon Musk. Est-il devenu fou? Bon, d'abord, il a viré tout le monde, en tout cas, tout son conseil d'administration. Il regarde ce qu'il a demandé à tous les salariés de lui montrer ce qu'ils avaient fait en ligne de code depuis un mois. Et là, il propose donc un abonnement obligatoire de $8 pour ceux qui veulent rester certifiés. Vous êtes certifiés tous les trois autour de la table?
Je crois que je ne suis pas certifiée sur Twitter, mais Twitter,
non.
C'est compliqué. Non. Comme...
Bah, je le suis.
Ah, et est-ce que
et vous
est-ce
allez
que...
payer ou pas vous allez...
Alors, c'est particulier parce que je suis journaliste. Donc, c'est vrai que Twitter est pour moi un outil de travail. Au quotidien, j'utilise Twitter. Juste pour rebondir sur votre question, Christophe, sur est-il devenu fou? Ce qui est sûr, c'est que pendant 6 mois, on s'est demandé s'il allait acheter Twitter. Maintenant, c'est fait.
40 milliards. Hein.
Alors, 40 milliards, effectivement. C'est vrai que dans le contexte actuel, c'est surpayé. Mais on en a déjà parlé sur ce plateau. On sait aussi que Elon Musk, quand il s'engage sur un chantier, que ce soit sur le spatial, sur les transports, il y va à fond. C'est ce qu'on voit depuis quelques jours. Et effectivement, il vient de proposer ce service. Alors au départ, il a évoqué $20. Il y a eu une bronca sur les réseaux. Ouais. Maintenant, c'est $8. Ça a l'air d'être la dernière offre ferme. voilà, on verra ce que ça va donner. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un problème fondamental de bots, c'est-à-dire en fait des faux comptes qui agissent en permanence sur les réseaux, qui viennent polluer à la fois ceux qui contribuent et même ceux qui en fait ne font que regarder ce qui se passe. Et donc voilà, il va essayer d'adresser ce problème. Est-ce que c'est la bonne solution? Je ne sais pas. Ce qui est intéressant, c'est qu'il aime bien les cryptos, cet environnement, et que potentiellement, en se servant de ces outils, parce que quelques investisseurs, comme le patron de Binance, entrés au capital, ils vont peut-être en fait, aussi utiliser les cryptos pour potentiellement résoudre et un peu mieux organiser le réseau.
Carole Juge-Lewelyn, il est fou, Elon Musk?
Alors, est-il devenu fou? J'en sais rien. Il était déjà assez créatif avant.
Ouais.
Moi, je trouve ça bien, finalement, de faire payer $8 par mois pour la certification. Ce qui est dommage, c'est qu'elle ne soit pas forcément corrélée à une certification d'identité, un des plus gros problèmes de Twitter.
Oui.
C'est finalement, ça troll énormément. Quoi. C'est,
normalement, quand vous êtes certifié, on a vérifié votre identité. On vous demande votre carte d'identité, tout ça. Vous êtes certifié Twitter.
Mais c'est là, c'est surtout que ça sera à celui, aux plus riches, finalement, qui pourront certifier leur compte et
non,
peu importe l'information qui sera délivrée sur les comptes en question.
Ouais, mais après $8 par mois, je trouve que pour des gens dont c'est le métier en partie de faire de la création de contenu, c'est pas si cher que ça. Hein. Pour les tout à chacun, c'est une somme, mais pour des gens dont c'est le métier et qui ont besoin de Twitter pour travailler, je trouve que c'est pas si cher. Après, si ça permet d'avoir un réseau qui est un petit peu plus indépendant financièrement et qui peut s'auto-financer, c'est pas plus mal. C'est-à-dire qu'il faut quand même au bout d'un moment que ces plateformes aient des business models.
Ouais. Voilà, ça, c'est quand même un sacré pari, quand même, de racheter un réseau social qui va quand même moyennement bien, 40 milliards de dollars, et de trouver derrière un business model.
Mais c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que la valorisation est démente sur une entreprise qui a une dette abyssale, en tout cas par les fonds qui ont été mis en œuvre, une boîte qui n'est pas break-even, hein, et qui vit sur un modèle économique qui n'est pas stabilisé, et dont la perspective serait de certifier des comptes. C'est absolument dingue. Alors, évidemment, des problèmes de traçabilité, des trolls qui sont absolument incroyables, mais reposer le modèle économique sur le fait qu'on a des comptes certifié, le propre de Twitter, c'est de pouvoir s'y inscrire très rapidement et de pouvoir se désinscrire. Donc ça va concerner une poignée de personnes qui auront la capacité de payer, mais surtout, c'est le modèle économique qui n'est pas stabilisé.
Ouais.
Elon Musk aura intérêt à dire très rapidement quelle est la transformation qu'il veut et qu'il souhaite porter.
Ah ben, alors, juste quand même une précision, c'est-à-dire que là, on parle simplement d'un des chevaux de bataille d'Elon Musk. Vous savez que c'est ce qu'il a reproché à Twitter, hein, qu'il y ait autant de faux comptes.
Mmh.
Là, il apporte juste une réponse, mais évidemment, le business model de Twitter ne sera pas basé sur la certification. Les premiers chiffres qui sont sortis, c'est-à-dire que si aujourd'hui tous les utilisateurs s'y mettaient, dans tous les cas, Twitter ne serait pas une entreprise rentable. Ce qui est sûr, c'est que là, il essaie d'apporter une réponse. Et puis quand même, sur effectivement, aujourd'hui, Twitter alors ne gagne pas assez d'argent. En fait, ça dépend des années. Ce qui est sûr, c'est que c'est un réseau social qui a un gros potentiel et je pense que c'est ce qu'il a envie d'exploiter, surtout, encore une fois, avec tout ce qu'il peut essayer de faire avec les cryptos et le Web3.
Bon, on verra. Après, c'est vrai qu'il y a ce génie créatif dont vous parliez, Carole, effectivement, d'Elon Musk. Bon, on lui fait confiance. Après, il ne faut pas qu'il cliffe trop, parce que vous savez qu'il y a des annonceurs déjà qui s'en montrent, qui quittent le navire.
Ouais,
bon.
GM, notamment.
Oui, tout à fait.
Aux États-Unis.
Alors, l'autre sujet, parce qu'on n'arrête pas ici de s'étonner, à chaque fois qu'on parle d'un secteur économique, bah, finalement, ça va bien. C'est-à-dire que, c'est vrai, les géants du luxe, bah, ils vont très, très bien. Là, on parle du jeu vidéo, puisqu'il y a la Paris Games Week qui s'ouvre aujourd'hui. Il n'y a que des success stories, notamment en France. Carole, vous êtes sûre qu'il y a une crise en ce moment ?
Alors, vous venez toujours avec moi avec la question sur y a-t-il une crise ? Parce que je suis toujours la plus optimiste.
Vous êtes la plus optimiste, vous souriez et vous êtes successful. Alors, je vous demande s'il y a une crise.
Non, c'est vrai que le jeu vidéo, c'est un secteur qui est hyper porteur. Et d'ailleurs, on a des très, très, très belles start-up en France. Vodou, c'est une machine incroyable, quoi. C'est vraiment une start-up incroyable. Juste génial. Ils font des jeux qui fonctionnent hyper bien.
Ubisoft aussi, évidemment.
Ouais, non, on a des très, très, très belles pépites et la France a un savoir-faire incroyable en gaming. Donc, je suis toujours hyper heureuse quand on a des industries françaises qui sont au top d'un point de vue mondial et qui règnent un petit peu sur. Et
qui font des envieux, vous avez vu le nombre d'acquisitions qu'il y a dans le secteur.
Bien sûr. Donc, moi, je suis vraiment contente que la Paris Game Week soit cette semaine. On va avoir une énorme visibilité et ça me porte un secteur qui marche hyper bien. Donc, c'est super. Bah,
Thibault Langsade. C'est une belle vitrine à la Paris Games Week.
C'est une très belle vitrine, puis surtout historiquement, mais je parle de ça il y a plusieurs années en arrière, les Japonais excellaient dans ce domaine. Et donc, on a réussi à damer le pion. Mais le sujet sera de protéger ces entreprises, c'est de savoir si elles vont rester sous pavillon français ou elles seront rachetées par des industries plus puissantes, et notamment venant des États-Unis, qui auront la capacité de le faire. Ouais. Et donc, il y a un sujet de protection de nos entreprises.
Vous avez vu, le gouvernement a répondu hier avec l'élargissement du crédit impôt recherche jeux vidéo, avec notamment l'extension aux jeux sur mobile. Hein.
Oui, mais ça, c'est la capacité d'investir. C'est pas forcément la capacité de conquérir de nouveaux marchés et d'investir encore dans ce domaine qui a encore besoin de prendre des parts de marché et de financer cette part de marché.
Raphaël, on va se faire manger par les étrangers ?
Je ne sais pas. Ce qui est sûr, effectivement, c'est qu'avec le gaming, on a encore un exemple d'une industrie, enfin du savoir-faire français. C'est vrai qu'il y a la dimension créative pure. Il y a aussi un point important, et justement c'est pour rebondir sur Voodoo, il y a aussi la dimension ingénieur-technologie. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on sait qu'on a d'excellents ingénieurs en France, des gens qui inventent. Et effectivement, tout ce qui est gaming est un terrain de jeu assez intéressant à ce niveau-là. C'est pareil, vous allez croire que je suis obsédé par la thématique, mais quand on prend par exemple une entreprise comme Voodoo, ils sont déjà en train de regarder ce qui peut se faire à 10 ou 15 ans avec les NFT, la blockchain, le Web3. D'ici peu, ils devraient faire des grosses annonces. Nous, on avait révélé qu'ils bossaient sur une ICO, donc c'est une émission de jetons pour financer un projet. Donc voilà, en fait, ce sont aussi des industries, c'est aussi le cas d'Ubisoft. Ce sont des grands groupes qui sont à la pointe aujourd'hui et qui cherchent en fait en permanence a aussi justement innové.
C'est ce que nous disait Nicolas Vignol ce matin, le délégué général du CEL. Il nous disait que finalement, c'est un secteur qui a toujours été en pointe. Le métaverse, par exemple, Second Life, ça a existé bien avant que les méta et consorts s'en emparent.
Non, totalement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on voit que c'est encore par le gaming, alors après, il y a d'autres secteurs, mais par le gaming et la création, que la blockchain, le Web3 commence à un peu infuser dans la société. Ça reste encore quelque chose de marginal, mais avec des géants comme Voodoo ou Ubisoft, ça va clairement se développer.
L'autre actualité qui nous intéresse évidemment, c'est la fragmentation du monde. L'Allemagne qui dévoile son plan de protection des entreprises et des ménages, 200 milliards, avec notamment un plafonnement des prix du gaz pour les entreprises, 70 euros. Bon, l'électricité, 120 euros le mégawattheure. C'est pas mal, il y a beaucoup d'entreprises, on était avec Duralex tout à l'heure à 16h45, qui aimerait bien avoir ce prix-là pour son électricité et son gaz. Thibault Langsad, on voit la même chose aux États-Unis avec le plan d'électrification de l'automobile américaine, qui est du dumping. On voit même des usines en Allemagne, des Suédois Northvolt, qui se disent « je vais plutôt aller aux États-Unis parce que ça va me coûter beaucoup moins cher que de faire en Europe ». Est-ce qu'il n'y a pas un dumping, vous êtes aux États-Unis ? Est-ce que les Américains et les Allemands ne sont pas en train de faire du dumping en ce moment ?
Il y a déjà une asymétrie vis-à-vis de l'Allemagne, mais sur beaucoup de points, on ne va pas refaire la différence entre la France et l'Allemagne. Mais ce qui est important pour l'Allemagne, c'est que 21% de l'économie est basée sur l'industrie. Donc le coût de l'énergie est vital. Ils ont une industrie, extrêmement puissante, qu'elle a besoin de nourrir à grand renfort d'énergie, avec des énergies qui sont faibles, voire polluantes. Et donc il est normal qu'ils investissent massivement. Ensuite, c'est un pays qui peut se le permettre. La dette de ce pays est à 2300 milliards, on peut rappeler la nôtre, qui a dépassé le cap des 3000 milliards. Et puis, ils ont, on va dire, une capacité d'exportation qui est leur cœur de lance. Donc, c'est-à-dire que s'ils n'investissent pas dans leur industrie, ils perdent le fruit de leur croissance, qui est la balance extérieure, qui est, on va dire, extrêmement bénéficiaire. Et donc, ils n'ont pas le choix que d'investir. Ils ont été plus économes que nous pendant la crise Covid, donc ils ont des réserves de liquidités qui permettent de mieux flécher sur les entreprises, avec un Mittelstand, qui sont ces fameuses entreprises
entreprises de taille intermédiaire qui représentent l'économie allemande. Donc ils sont dans leur bon droit, puis ils ont une vraie capacité, on va dire, à transformer leur énergie, enfin plutôt transformer leur industrie qui est, on va dire, plutôt vieillissante. Maintenant pour les États-Unis, voilà, business as usual, ils ont une capacité là aussi de liquidité phénoménale, donc bien évidemment ils subventionnent leurs
entreprises. Et nous, qu'est-ce qu'on fait en garde en se croisant les bras ?
Mais nous, on a fait beaucoup de choses. Hein. On a fait beaucoup de choses. La seule chose, c'est qu'on arrive après avoir mis des PGE, avoir fait des prélèvements différés de charges, et puis avoir énormément soutenu différents secteurs. On arrive, non pas après la bataille, mais on a déjà fait notre plan. Les Allemands sont en train de le mettre en œuvre.
Carole Juge-Lewin, c'est la guerre des nations à nouveau, que le meilleur gagne maintenant.
Hein. Moi, il y a une chose qui me fait toujours un petit peu de peine quand on regarde finalement ce qui se passe, c'est l'absence, en tout cas, d'une vraie volonté de la France d'aller sur la commande publique. On a énormément de start-up, énormément de PME, énormément d'entreprises en France. Il y a un moment, les Américains le font, mais alors sans aucun problème, quoi. Biden peut annoncer à n'importe quel moment.
Vous voulez que l'État français achète des couches ?
Alors, vous prenez un exemple.
Je rappelle que vous fabriquez, notamment, vous commercialisez des couches écolo. Hein.
Vous prenez un exemple qui est pas mauvais. Au final, quand vous avez un appel d'offres pour aller, je sais pas moi, dans un réseau d'entreprises, la PHP, c'est plus d'une quarantaine d'entreprises.
La PHP, d'entreprises, bien sûr. Ouais, ouais. Bah, on a du Pampers.
On a une marque qui n'est pas française. Et donc, forcément, ça. Non, mais ça.
Donc, il faut un changement culturel, quoi, c'est ça.
Mais il y a un changement culturel sur pas mal de sujets.
Pourquoi on n'a pas de June à la PHP ?
Parce que je pense qu'il y a des enjeux financiers qui sont forcément impactants. Et même si aujourd'hui on a un produit qui est quand même très compétitif, c'est difficile de rivaliser avec des gens, avec une industrie, une entreprise qui a 50% du marché mondial.
Et qui fait du dumping dans les hôpitaux ?
Non, je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils font du dumping, mais c'est aussi une manière de faire de l'acquisition de nouveaux clients. Donc, quelque part, c'est une stratégie qui se défend. Mais néanmoins, je trouve que c'est important de rappeler que les Allemands le font, les Américains le font. La commande publique, ça n'est pas une mauvaise chose. Et ce serait vraiment important de le développer.
Allez, merci beaucoup. On a plein de rendez-vous aujourd'hui. Bien sûr.